France Musique. Musicopolis. John Dowland, musicien mélancolique, mais pas que. John Dowland fait partie de ces nombreux musiciens des temps anciens de la musique dont on ne sait pas grand-chose. Sa biographie est pleine de trous et de conjectures. Quand et où est-il né? Comment a-t-il été éduqué? Comment a-t-il appris la musique? Sont quelques-unes des questions que l'on se pose à son propos. Une autre se pose aussi plus délicate, puisque beaucoup plus intime. Dowland était-il dépressif? Certains spécialistes le pensent, parce qu'il a composé beaucoup de chansons qui tournent autour du sentiment de mélancolie, et notamment parce qu'il a intitulé un groupe de pièces « Lacrimae, larmes », dont l'une est même nommée encore plus explicitement « Semper Dowland, Semper Dolens », c'est-à-dire « Toujours Dowland, toujours dans la douleur ». Mais d'autres, tout aussi spécialistes, insistent au contraire sur le caractère joyeux de Dowland, qu'on trouve aussi dans toute une partie de sa musique. Alors, voici ce que je vous propose. Faisons-nous donc notre propre idée. Cette musique poignante est intitulée « Lacrimae antiquae » par John Dowland. C'est la première pièce d'un recueil paru en 1604 à Londres. « Lacrimae or Seven Tears figured in seven passionate pavans ».« Lacrimae » ou « Sept larmes figurées dans sept pavanes passionnées ». Ce « Lacrimae » est donc une pavane, c'est-à-dire une danse lente et solennelle, et qui veut figurer, représenter musicalement, une larme. Les quatre premières notes, d'ailleurs, descendantes, sont considérées comme le motif des larmes. Ces quatre notes descendantes peuvent être d'autant plus associées aux larmes qu'avant même de réaliser cette version de la pavane Lacrimae pour un ensemble de viols, Dowland avait utilisé la même musique dans une chanson sur le texte « Flow My Tears » paru dans son deuxième livre d'air publié en 1600. « Coulez mes larmes, jaillissez de vos sources. » Ces quatre notes descendantes sur les mots « flow my tears » sont devenues une sorte de cliché musical pour évoquer les larmes à la période baroque. Cette chanson est devenue très célèbre en son temps. Mais la version la plus connue de cette pavane est encore antérieure. C'est la version pour luth, composée dans les années 1580 ou 90, et qui a circulé dans toute l'Europe pour devenir en quelque sorte l'emblème de la mélancolie de Dowland.
Thank you.
Voilà donc pour vous faire entendre à quel point Dowland peut être considéré comme un musicien mélancolique. Mais à présent, passons à son caractère plus enjoué. Oui, oui, il existe un Dowland joyeux. Bien, maintenant que la preuve est faite que Dowland n'est pas seulement mélancolique, détaillons un peu le pourquoi de sa supposée mélancolie. D'abord, un constat. L'époque élisabéthaine, à laquelle vit Dowland, est passionnée par la mélancolie. On publie des livres sur le sujet, les plus connus étant le Traité de la mélancolie de Timothy Bright, paru en 1586, Dowland a alors environ 23 ans, et L'anatomie de la mélancolie de Robert Burton, paru en 1621. Il en a 58. On parle de la mélancolie comme d'un véritable courant littéraire et artistique en Angleterre à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Un courant qui viendrait entre autres des poètes et philosophes néo-platoniciens, apparu plus tôt encore en Italie. Les biographes de John Dowland scrutent dans ce qu'on sait de sa vie pour y trouver des raisons à sa mélancolie personnelle, en plus de la mélancolie de l'époque. Ce qui aurait assombri son humeur jusqu'à l'aigreur et l'amertume serait de ne pas avoir réussi à obtenir un poste de luthiste à la cour d'Élisabeth Ière. Ce n'est pas faute d'avoir postulé pourtant. À plusieurs reprises, Dowland a fait des démarches dans ce sens, sans aucun succès. Pourtant, il avait eu l'occasion de jouer devant la reine et il avait des soutiens bien en cours. Mais pour une raison ou une autre, elle n'a pas voulu de lui. ce dont il s'est plaint dans les préfaces de ses livres, d'une manière tellement maladroite qu'elle lui fermait sans doute encore plus les portes royales. Puisque la reine Elisabeth n'a pas voulu de lui à la cour d'Angleterre, John Dowland a décidé de partir. Il avait déjà voyagé dans sa jeunesse, ayant passé en France au moins 4 années entre l'âge de 16 et 20 ans. Époque où il s'était également converti au catholicisme. On se souvient que cette fin du XVIe siècle est particulièrement conflictuelle sur le plan religieux, que ce soit en Angleterre ou en France. Ça n'a sans doute pas arrangé ses affaires avec la reine. Un peu plus tard, dans sa trentaine, donc, Dowland a vécu en Allemagne, à Wolfenbüttel, puis à Kassel. Il est allé en Italie, où il a visité un certain nombre de villes du Nord. Il dit dans l'une de ses préfaces qu'il voulait pousser jusqu'à Rome pour rencontrer Luca Marenzio, grand compositeur italien. Mais il n'a pas l'occasion d'aller jusque-là. Il se retrouve à Florence, pris dans un réseau d'intrigues mené par des catholiques anglais qui conspirent contre la reine. Il se tire d'affaire juste à temps et revient à Kassel. Puis à Londres, il postule à nouveau pour un poste royal. Ça ne marche pas. Il publie son premier livre d'air, qui a un immense succès, qui fera l'objet de 5 éditions successives. Finalement, en 1598, il accepte le poste de luthiste du roi de Danemark, Christian IV. John Dowland va rester plusieurs années à la cour de Christian IV de Danemark. Il est très bien payé, très bien considéré, le roi lui fait des cadeaux en plus de son salaire et le laisse même faire des voyages en Angleterre, des voyages de plusieurs mois. Une première fois pour acheter des instruments et recruter des musiciens, une deuxième fois pour affaires personnelles. Il se trouve que cette deuxième fois tombe pile en 1603, année de la mort de la reine Elisabeth. Il est probable que Dowland cherche alors à se placer auprès des nouveaux souverains, Jacques Ier et son épouse Anne de Danemark, sœur de Christian IV. Can she excuse my wrongs with virtue's cloak? Shall I call her good when she proves unkind? Are those clear fires which vanish into smoke? Most I prize the leaves where no fruit I find. Nor where shadows do forebode stand, that might be abused if I sight be dim. Cool truth is like to earth return.
bubbles screech, conquer water swim. Wilt be those abused still, see that she will write thee never. If so canst her come her will, then Louvre be those footless ever. Will to be those abused still, see that she will write thee never. If to come to their come her will, the Louvre will be those footless ever.
John Dowland quitte définitivement le Danemark en 1606. On ignore s'il est rentré directement en Angleterre, mais on sait qu'en 1609, il habite toujours dans Fetter Lane, près de Fleet Street, un quartier où vivent beaucoup de musiciens. Je dis toujours parce qu'il faisait déjà mention de cette adresse dans le recueil des Lacrymées, publié en 1604. Dowland est employé dans une grande maison, chez Lord Walden, et il continue à essayer de se placer à la cour. Pas de succès en 1610, où un autre luthiste est nommé. Mais enfin, en 1612, on va créer pour lui un cinquième poste de luthiste de la cour. Enfin, ce qu'il attendait et espérait depuis plus de 20 ans arrive. Si l'on accepte les refus d'Elisabeth Ier d'engager Dowland, on peut considérer que sa carrière s'est déroulée plutôt bien. Il a voyagé, il s'est fait connaître en Angleterre, en France, en Allemagne, en Italie, il a joué partout, sa renommée s'est répandue, on écrit même des vers pour le célébrer. Dowland, t'es cher, qui touche le luth divinement et ravit l'oreille humaine. Dans un texte paru en 1661, l'historien anglais Thomas Fuller, qui ne l'a probablement pas connu, affirme que Dowland était quelqu'un d'enjoué, passant son temps dans la joie. Les biographes continuent à débattre sur ce sujet. Il est évidemment probable que notre musicien a eu des moments joyeux, ce qui n'empêche qu'il a eu probablement aussi des accès de mélancolie et d'aigreur. En 1612, par exemple, dans la préface de son dernier recueil, « A Pilgrim's Solace », le réconfort du pèlerin, il fustige méchamment les jeunes maîtres de luth qui se croient supérieurs à leurs aînés. Certains commentateurs vont jusqu'à affirmer qu'il était légèrement paranoïaque.
That my heart oppressed, oppressed. See you're that my heart oppressed, oppressed, and overcloyed me break. Me break thus overjoyed, overjoyed. If you seek to spill me, come kiss me sweet. your heart be eased, and I shall rest content, and I will praise it.
Mais au fait, me direz-vous, la mélancolie de John Dowland est peut-être due à sa vie personnelle, difficile, avec des moments tragiques. Peut-être, en effet, mais ça, on n'en sait rien du tout. Enfin, pas grand-chose. Il a eu un fils, luthiste comme lui, Robert Dowland, né vers 1591. Donc, John était marié avant 1591. Dans une lettre de 1595, il parle de 16 enfants, au pluriel. On sait aussi que c'est son épouse, restée à Londres pendant qu'il était en voyage, qui s'est occupée de la publication de son deuxième livre de chansons, paru en 1600. Après 1601, on n'a plus mention de la présence de l'épouse, mais sans qu'on puisse affirmer qu'elle est morte et que sa mort a contribué à la sombre humeur de son époux. Quoi qu'il en soit, il a composé, peut-être en pensant à elle, des chansons pleines d'amour et de feu. Dowland a été un grand innovateur, ce dont il a sans doute eu conscience. Même si son premier livre est écrit pour pouvoir être chanté à plusieurs voix, selon l'usage du madrigal de la Renaissance, de plus en plus il écrit ses pièces pour être chanté à une seule voix avec luth, ce qui est alors tout à fait moderne et correspond à l'usage de la musique baroque, alors naissante. D'ailleurs, on peut s'imaginer Dowland, toujours son luth à la main, comme une prolongation de son corps.
Come again, sweet love doth now invite thy graces that refrain to do me due delight to see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweetest sympathy. To kiss, to die with thee again in sweetest sympathy.
Dans la dédicace de ses Lacrymées à la reine Anne, Dowland écrit ces mots avec lesquels nous conclurons pour aujourd'hui. Quoique le titre promette des larmes, les larmes que pleure la musique peuvent être agréables, puisque les larmes ne coulent pas toujours dans l'affliction, mais parfois dans la joie et le contentement. Accordez donc, ma digne déesse, votre protection à ces déluges d'harmonie, qui ne deviendraient de vraies larmes que si vous veniez à les dédaigner. Farewell, Unkind, Adieu cruel, du troisième livre d'air de John Dowland, la Boston Camerata, dirigée par Joël Cohen. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Pierre Monteil pour le mixage et Clément Diaz pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.